je pense que ma pratique de guide est beaucoup plus de base que celle de Nicolas, qui tu es un vrai maître de aussi de performance. Moi, mes randonnées, comment dire, le truc au cœur de mes randonnées, c'est le tracé. Et si ce tracé ne fonctionne pas de lui-même, je suis perdu. Je ne peux pas le auffangen, je ne peux pas le sauver avec mon performance, ce que Nicolas est probablement capable. Donc les propositions que j'ai à faire sont très pratiques. Il y en a la plupart, je pense, où on correspond. C'est d'abord, ne parlez pas des choses que vous intéressez pas. Ça, on peut avoir dans les bouquins. Je sais pas, il y a d'autres places pour cela. Mais sur une randonnée, dans une randonnée, on est ensemble dans une situation, donc on partage une situation, comme on partage une situation si on fait un voyage ensemble. Donc sur un voyage, je ne parlais pas aux autres sur des choses qui ne m'intéressent pas personnellement. Donc parler des choses qui vous intéressent personnellement. Ne parlez pas des choses qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par exemple, parler de la passé, d'un lieu, des choses comme ça. Mais ici, je ne parlerai jamais du pavillon de l'expo, parce qu'on ne le voit pas encore. Si on marche 500 mètres plus loin, on le voit de loin. Là, c'est déjà possible d'en parler. Et quand on est vraiment dans le truc de l'expo, oui, c'est bien possible. Troisièmement, laisser d'abord... il faut toujours laisser d'espace et du temps pour l'impression avant de parler. Donc quand vous arrivez à un lieu, il faut toujours laisser du temps pour les gens pour expérimenter l'endroit. Et après, donner les explications, si c'est toujours nécessaire. Des fois, c'est même pas nécessaire après, parce que les trucs s'expliquent eux-mêmes. Je pense aussi que c'est très très important parce qu'on est dans une situation ensemble, de ne pas parler seul, mais de faire les autres parler. Sur mon randonnée, c'est souvent comme ça qu'on s'arrête à un lieu. D'ailleurs, c'est très important où s'arrêter pour parler, quelle vue on a à ce moment-là. Aussi, bien sûr, le son, si c'est bruyant ou non, mais aussi la vue, qu'est-ce qu'on montre au moment qu'on parle. Et souvent, après, quand on s'est remis en route, il y a des gens qui viennent chez moi, et je suis en avant, donc ils courent vers moi, et ils me disent, sais-tu ça et ça et ça sur ce lieu? Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Et je m'arrête et je dis, ce monsieur ou cette dame, ils veulent vous dire quelque chose sur le lieu où on était juste. Le drôle de truc, ils disent jamais non, je ne veux pas, je préfère que tu l'aies dit. Non, ils disent toujours. Après...
Est-ce que tu parles fort?
Je pense toujours que je parle fort, et après les gens me disent souvent il faut que tu parles plus fort.
Sur les longues questions triviales, mais sur les longueurs que tu préfères,
oui.
Toi, c'est quoi?
Oui, les moments des randonnées que pour moi personnellement sont les plus belles, c'est au début je parle plus qu'à la fin. Parce qu'au début, d'abord, j'ai toujours peur que les gens ne comprennent, pouvaient pas comprendre, éventuellement pas comprendre pourquoi on est là. Mais pourquoi, tu vois, qui se disent, mais pourquoi ils nous mènent ici? Donc, ça me fait parler un peu trop pour les expliquer pourquoi on est là. Peut-être ça les aide aussi à comprendre. c'est un peu contradictoire à la foi que j'ai au parcours même. Mais quand même, même après 20 ans, chaque fois que je prends un nouveau parcours, j'ai peur que le parcours ne parte pas pour soi-même. À la fin, dans les dernières heures d'une randonnée, ou la deuxième ou troisième journée, parce que je fais souvent des randonnées de plusieurs jours, les gens sont rentrés dans cette vue, dans le rythme, dans tout ça. Donc il faut beaucoup moins expliquer. Et ça devient quelque chose très, je sais pas, les moments les plus beaux sont que quand je marche, je sais pas, 20 mètres en avant, derrière moi, il y a une un couple qui parle entre eux. Des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui commencent à parler, et ils ne parlent pas de ce qu'ils voient, ils parlent de toutes sortes de choses, mais ils parlent. Et il y a une qualité de voix et de mélodie qui me fait sentir « Ah, c'est le meilleur moment de la randonnée », parce que l'environnement les inspire. Et c'est cette inspiration, dans un sens très général, qui le fait communiquer entre eux. Et il faut être très prudent où et pour quelle valeur, si tu veux, interrompre cette beauté. Parce que si je m'arrête à un moment donné et je dis calmez-vous tous, je veux vous expliquer quelque chose, il faut attendre jusqu'à tout le monde est là, il perd la forme des couples en colleleu, toute cette beauté se perd pour un moment, et c'est pas dit que après ça se reconstitue. Des fois oui, des fois non. Donc il faut être quand cette dynamique de la groupe est si bien, et cette dynamique elle est grâce à la beauté du parcours et de l'environnement, il faut être très prudent où parler, et aussi à quelle longueur parler. Par exemple, si les gens commencent à s'asseoir, tu as déjà trop long parlé.
J'ai l'impression que souvent dans les promenades, le matin, c'est assez intensif, c'est un peu professoral. Le matin, on écoute beaucoup, on parle beaucoup avec le maître et tout ça. Le pique-nique, les gens font connaissance et il y a d'autres foyers de parole qui émergent. Et souvent, c'est vrai que j'ai l'impression que l'après-midi, c'est ce que tu dis sur les couples qui se parlent à queue leu leu, l'après-midi, ça se met à fonctionner tout seul et le guide a presque plus besoin d'intervenir. Est-ce que tu retrouves ça aussi, ce truc sur le matin et l'après-midi?
Oui,
ou pas?
Oui, je retrouve ça aussi. Je pense que ça a aussi quelque chose à faire avec la lumière. Par exemple, là, maintenant, cette lumière de l'après-midi et du tôt soir, du tôt soirée, c'est une...
C'est une lumière qui n'est pas professorale.
Non, c'est une... comment dire, je suis pas religieux, mais quand j'étais religieux, c'était dans ces heures-là et pas dans pas le matin ou à midi. Il y a probablement aussi cet aspect physique. Tu as trouvé un rythme de marché, les gens ont trouvé un rythme de marché. Tu es peut-être un peu fatigué de marcher. Et bien sûr, tu as vu plein de choses parce que notre travail de guide de sentier métropolitain n'est pas sur des thèmes. Notre thème, c'est le territoire. Donc au début, quand tu as visité ou passé 3 ou 4 lieux d'intérêt, les participants sont peut-être toujours à la recherche du thème. Mais qu'est-ce que ça a à faire l'un avec l'autre? Mais après 20 impressions différentes, ils ont compris que ce n'est pas le jeu.
Comment est-ce que tu considères les moments de repas Ou alors est-ce que tu fais intervenir aussi d'autres personnes dans ces journées, des personnages que tu convies et qui prennent un rôle dans l'animation de la journée? Est-ce que ça aussi ce sont des ingrédients de l'organisation de la journée, du parcours, de ton guidage?
Les repas sont bien sûr des moments importants. Pour moi, c'est aussi jusqu'à ce jour, presque le seul moyen à insérer des lieux. Par exemple, si tu poses une belle table, quelqu'un prépare une belle table quelque part, avec une longue table, tu peux aussi insérer une axe, donner une direction, des choses comme ça. Bon, bref, c'est une très simple manière d'intervention architecturale ou artistique que j'accepte parce qu'elle est en même temps 100% intégrale de la situation. Parce que c'est ça, je pense, pour moi, la première prémisse. Toujours rester dans la situation. Vous êtes dans une situation ensemble. C'est ça la différence à un MOOC ou à une conférence. On est dans une situation ensemble. Et par exemple, je sais pas, à Cologne, j'ai suivi des tours guidés d'autres personnes. Et à un moment, il y avait des musiciens dans un coin. Des trucs très artificiels. Et je déteste ça. Mais les repas communs dans un joli lieu avec une table belle insérée, ça fait partie de la situation, donc c'est pas artificiel. Après les bains, prendre les bains ensemble dans les lacs, c'est très important parce que aussi se plonger dans l'eau, c'est aussi se plonger dans le paysage, dans un sens très littéraire, mais aussi sur un autre niveau. Et bien sûr, manger ensemble, ça construit toujours la communauté aussi.
Dormir?
Dormir dans l'hôtel, moins. On se partage, on va dans les chambres, on se retrouve le prochain matin. Dormir, même si c'est dans le même hôtel, c'est avoir la pause des autres. Ce qui est très important aussi, c'est que Denis a fait hier. Il faut à un moment donné avoir la pause de la groupe.
Et tu fais pas des bivouacs ou des trucs comme ça sur plusieurs jours, des treks?
Oui, mais aussi le bivouac, il faut poser les tentes assez loin l'un de l'autre pour avoir la pause.
Et sur les interventions d'autres personnes, tu en as pas parlé parce que c'est pas toujours évident de prévoir un rendez-vous, de savoir comment faire intervenir quelqu'un dans un moment alors que reprendre une conversation avec lui alors qu'il a pas vécu les moments précédents. C'est pas toujours facile d'intégrer la parole d'une personne invitée au cours d'une journée comme ça.
Oui, là. La randonnée que je vous ai fait à Cologne, c'était pas représentatif parce qu'on a, je pense qu'on a rencontré aucune personne. C'était partiellement parce que c'était en hiver. Normalement, par exemple, dans le Hekvad, je prépare toujours des repas que les gens de là nous préparent dans leur jardin. Mais si tu rentres dans les maisons, c'est pas agréable parce que les chambres sont trop coincées. Mais dans les jardins, c'est bien. Mais là, en hiver, c'était pas possible, par exemple. J'essaie toujours d'intégrer des tels moments quand ça fait partie de la situation. Mais sinon, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Pour moi, c'est un extra que j'aime bien, mais c'est pas absolument nécessaire. Par contre, la construction d'un chemin autour d'une, ou de se servir d'un chemin pour construire une communauté, pour moi ça prend plutôt place sur cette question sur ce niveau de régnement sur l'interprétation. Donc avec l'interprétation à laquelle j'arrive avec mes recherches, je peux la redonner dans le discours de la société ou politique ou que ce soit. Et il y a d'autres qui peuvent s'accrocher à ça.